Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je serai en compagnie d'une jeune entrepreneure bourrée de talent et de conviction qui semble avoir pris un train, ou plutôt une fusée d'avance. À 25 ans, elle a fait Sciences Po, elle a travaillé au service d'un gouvernement et elle a lancé sa marque de mode. Elle rêve de devenir entrepreneur depuis qu'elle a 12 ans et elle a mis son plan à exécution de manière remarquable. Son parcours impressionnant est à découvrir maintenant. Bonne écoute. Le podcast est disponible à l'écoute sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et encore. Vous avez tous les liens sur le site internet Africa Fashion Tour. Tous vos commentaires et vos suggestions d'invités sont les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je vous emmène en Guinée avec Nassita qui va nous parler de son parcours entre la France, la Guinée et le Sénégal. Elle a décidé de créer une marque, Cita Indigo, qui valorise le lépi, un tissage traditionnel guinéen. Elle va nous raconter par quel cheminement elle en est arrivée à la concrétisation de cette idée. Bonjour Nassita, comment vas-tu ?
Bonjour Amaka, je vais très bien, merci, et toi ?
Ça va très bien, je te remercie. Alors, mais écoute, je suis ravie de te retrouver pour cette interview. On va commencer par un petit peu le basique. Est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bien sûr. Et je tenais tout d'abord à te remercier aussi pour cette fabuleuse opportunité. Je suis très heureuse de pouvoir prendre part à cette discussion aujourd'hui. Donc, je m'appelle Nassita Fofana, j'ai 25 ans. Je suis française d'origine guinéenne. Et dans la vie, ce qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat. Très tôt, depuis l'âge de mes 12-13 ans, j'ai éprouvé l'envie de créer ma propre entreprise et de mener à bien un projet selon ma propre vision. J'aspire à travailler sur des projets qui ont du sens à mes yeux et un certain impact social. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai créé la marque Cita Indigo pour laquelle je travaille à temps plein actuellement.
Ok, bah écoute, merci pour cette présentation extrêmement claire. Quand tu dis que depuis tes 12 ans, en fait, tu as un esprit entrepreneurial, ça veut dire que tu as déjà eu très tôt une première idée d'entreprise ?
Oui, j'avais très tôt une première idée d'entreprise. En fait, j'avais envie de créer quelque chose. J'avais envie d'être à la tête de ma propre société. Après, je ne pouvais pas dire très précisément dans quel domaine. C'était encore assez flou et j'ai dû construire ça au fil des années. Mais je peux dire quand même que j'avais une volonté de créer. Je me suis toujours vue à la tête d'un projet que j'aurais lancé et je me suis pas vue dans un métier qui existait traditionnel comme avocat ou médecin ou autre. Je voulais être chef d'entreprise. C'était quelque chose que j'avais en tête.
Ok, c'est super intéressant. Et toi, dans ta famille, du coup, tu as plutôt, je sais pas, des avocats, des métiers traditionnels ou éventuellement des chefs d'entreprise. Est-ce que tu sais dire d'où te vient cette volonté finalement d'être une femme d'affaires, d'être un entrepreneur ?
J'avais une tante qui n'est plus de ce monde malheureusement et qui était une commerçante. Elle parcourait vraiment le monde, elle allait en Chine, en Inde, elle achetait des tissus, des bijoux, elle les revendait. Et j'avoue que j'étais très fascinée par ce qu'elle faisait. Et parfois, elle passait à la maison et je lui posais souvent des questions sur ce qu'elle faisait, comment elle faisait, où est-ce qu'elle logeait quand elle allait en Chine. En plus, c'est une personne qui n'est pas allée à l'école, donc qui a tout appris sur le tas. Et j'avoue que j'étais vraiment fascinée par ce qu'elle faisait. Et mes parents, du côté de mes parents, j'ai pas forcément eu l'exemple parce que mes parents n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et d'avoir des diplômes. Et mes sœurs, mes frères et sœurs non plus, ils sont éduqués, je veux dire. Par contre, ils ont des carrières plus classiques. Par exemple, j'ai une sœur qui est dans le marketing, et voilà, une autre qui est dans le commerce. C'était vraiment peut-être, je pense, de cette personne-là, de ma tante, qui était une grande commerçante, que j'ai tiré cette envie de vouloir créer quelque chose et d'être à la tête d'un projet.
Ok, super intéressant. En général, on a toujours de toute façon une personne de la famille ou pas qui nous a inspiré dans les choix que l'on fait par la suite. Et c'est pour ça que c'est très important, en fait, la représentation de profils féminins ou masculins, issus de la diaspora ou pas, mais qui ont des parcours qui inspirent en fait les jeunes générations. Donc du coup, ton témoignage ici, il est extrêmement intéressant. Du coup, j'ai envie de te demander, donc dès 12 ans, tu sais que tu veux être chef d'entreprise, mais du coup, quelles sont les études que tu as faites?
Alors, dès 12 ans, je savais que je voulais être chef d'entreprise, mais les choses n'ont pas été très faciles, car j'étais plutôt bonne élève et mes professeurs, très tôt au lycée, m'avaient ciblée et m'avaient dit, Nacita, tu dois faire Sciences Po parce que tu es très intelligente et voilà, tu as les capacités, tu sais écrire et tu peux t'exprimer d'une bonne manière. Et donc, on m'a dit, il faut que tu mises sur les études. Et après tes études, si tu veux, tu pourras te lancer parce que ça sera toujours un acquis. Ce sera toujours une base solide vers laquelle tu pourras toujours te retourner. Et donc, bien que je voulais entreprendre très tôt, je n'ai pas forcément suivi la voie classique. Dans ma tête, je voulais faire une classe préparatoire pour rejoindre une école de commerce, EM Lyon, mais ça s'est pas passé comme ça. À la fin du lycée, j'ai tenté le concours Sciences Po que j'ai eu. J'ai passé des oraux pour ça. J'ai été admise, donc j'ai passé 3 ans à Paris à étudier les sciences sociales. J'ai fait 1 an à l'étranger où j'ai fait des stages, dont un dans une start-up à New York et un second dans un cabinet d'avocat, qui m'a un peu orientée à étudier le droit, bien que j'avais toujours cette envie d'entreprendre. En fait, puisque je n'avais pas vraiment de domaine précis, je n'avais pas vraiment de projet précis et concret, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne quelque chose qui allait me servir. Et je trouvais que le droit, c'était un bon moyen, surtout le droit des affaires, d'apprendre, d'avoir des bases solides qui pourront me servir plus tard. Donc, c'est comme ça que j'ai étudié pendant 2 ans le droit des affaires avec une spécialité en propriété intellectuelle. Et à l'issue de mes études, je savais très bien que je ne voulais pas devenir juriste ou avocate. J'ai eu cette opportunité de travailler en Guinée-Conakry, donc dans mon pays d'origine, dans un cabinet de conseil en stratégie qui conseillait le gouvernement guinéen à l'époque. Et c'est de cette manière que je suis arrivée sur le continent, toujours avec l'idée d'entreprendre en tête. Et c'est quelques années plus tard, donc 1 an plus tard, que ça va vraiment se concrétiser.
Ok, donc t'as un parcours super intéressant, de ce que je comprends, donc Sciences Po, ensuite du droit des affaires en propriété intellectuelle, donc un sujet extrêmement pointu, mais pour quelqu'un qui monte sa marque par la suite, du coup, ça donne vraiment des bases qui sont extrêmement intéressantes. Donc, ce que tu me dis, c'est que t'as fait du coup 1 an, c'était 1 an aux États-Unis à New York, ça a été ça en fait, une espèce d'année de césure ou c'était dans le cadre de tes études?
En fait, c'était dans le cadre des études, on a ce qu'on appelle une année hors mur. Et j'avais choisi d'aller à New York. C'était un choix assez compliqué parce qu'en fait, j'avais choisi cette ville-là justement parce qu'elle avait cette âme entrepreneuriale. C'est la ville où tu peux réussir, un peu la chanson d'Alicia Keys que j'avais en tête. J'étais un peu rêveuse et naïve. Mais j'avais choisi New York pour faire 2 stages. Donc, l'année, en fait, était le programme à Sciences Po est conçu pour que la 3e année, on aille à l'étranger, soit pour étudier, soit pour faire des stages au sein d'entreprise. Et moi, j'avais choisi de faire un stage, comme j'ai dit, dans une start-up spécialisée dans l'immobilier et le second dans un cabinet d'avocat.
Ok, super. Merci pour ces précisions, du coup, pour que ce soit plus clair pour un peu tout le monde qui se pose plein de questions sur leur avenir et qui, je pense qu'il n'y a pas de voie, comment dire, standard pour devenir entrepreneur. Donc, c'est intéressant de savoir, toi, par quel chemin est-ce que tu es passé. Du coup, tu commences par la France, tu fais Sciences Po, tu te retrouves aux États-Unis, puis tu reviens, donc tu reviens en France, j'imagine, et de là, tu as une opportunité de poste à Conakry et tu n'as aucune hésitation, en fait. Après tes études, tu prends ton billet et tu as un parcours un peu de, comment on dit, repatte.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai aussi cette envie de connaître mes origines et de connaître un peu plus mon identité. J'étais déjà allée en Guinée, j'avais déjà fait 2 voyages avec mes parents, mais c'était vraiment dans le cadre familial. C'était des voyages organisés pour rencontrer la famille, les cousins, les tantes, les oncles. Et je restais 2-3 jours à Conakry, et puis je m'en allais au village où je restais 1 mois, et puis je revenais. Donc je connaissais très peu mon pays d'origine. Et en tant que fille d'immigrée, j'avais cette envie aussi de mieux connaître ce pays, parce qu'on dit souvent, oui, je suis guinéenne, mais je connaissais pas beaucoup de la Guinée. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de travailler en Guinée, vraiment, je l'ai saisie. Et puis, j'étais ouverte à voyager, j'étais ouverte à découvrir, à apprendre, parce que je sais que c'est le meilleur moyen d'avoir des idées. Et pour une personne qui est en recherche d'idées constantes pour entreprendre, c'est le moyen parfait, je pense.
Ok, super. C'est super intéressant ce que tu nous racontes. Et du coup, après, finalement, après ce job en Guinée, puisqu'on comprend qu'aujourd'hui, t'as créé ta marque Cité Indigo, comment se fait la transition entre cette mission dans un cabinet de conseil stratégique pour le gouvernement guinéen et la création d'une marque de mode?
Alors, en fait, le projet est né petit à petit. Donc, quand je suis arrivée en Guinée, j'ai pris du temps pour visiter des musées, me balader dans les marchés et voilà, m'imprégner vraiment de la culture locale. Et j'ai découvert le panier indigo. Je le connaissais déjà, mais je sais pas ce qui s'était passé dans mon cerveau. J'avais en quelque sorte oublié. Et puis, je l'ai redécouvert. Et je me souviens qu'un jour, j'étais au musée de Conakry et j'ai discuté avec un tisserand qui me racontait son métier, les difficultés auxquelles il était confronté. Et j'ai commencé à prendre conscience, à me renseigner et à m'éduquer sur les tissus et sur l'importance finalement du secteur textile, parce que ça peut être un véritable levier de développement. J'étais très sensible aux questions de développement économique parce que justement, je travaillais avec le gouvernement et nos projets étaient à base de renforcement de capacités, comment créer de l'emploi face à l'immigration, comment empêcher la fuite de personnes, comment empêcher que les gens prennent des bateaux pour mourir en mer. Donc, c'était des problématiques auxquelles j'étais fortement confrontée au quotidien. Et découvrir le tissu, je sais pas, ça a fait une sorte de lien. Et je me suis dit, ben, Nacita, tu veux entreprendre, là, tu as un projet concret devant toi, il y a un véritable défi. Tu as des artisans africains qui font un travail formidable, mais qui n'est pas forcément valorisé. Pourquoi tu ne te lancerais pas? Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au cours de mon année de travail chez Dalberg, je travaillais en même temps, je faisais un peu de couture. J'avais un couturier, j'allais le voir, on faisait des modèles. Je vendais ça à mes collègues, aux amis des amis. Donc, j'ai commencé ça petit à petit. Et à la fin de la mission à Dalberg, je me suis dit, il faut que je me lance. C'est le moment. J'avais un peu d'économie. Et je me suis dit, tu es jeune, tu n'as pas de charge familiale. T'as des économies, lance-toi, et si ça ne marche pas, écoute, tu iras chercher un autre travail et tu travailleras. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée.
Ok, super, c'est super intéressant cet esprit entrepreneurial, en fait, très tôt que t'as toujours eu, et dès que t'as identifié, en fait, une opportunité, tu l'as saisie, et ce que j'entends dans ton parcours, c'est que t'as testé tes produits et t'as testé quelque part un peu ton business model avant de lancer la marque, parce que le fait de proposer un produit, deux produits, trois produits aux collègues, c'est un moyen aussi de tester son marché quelque part. Donc finalement, pendant que t'étais en poste, t'étais en train d'analyser le marché et de valider en fait si l'idée était pertinente ou pas.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et cette question-là, elle m'est beaucoup venue en tête parce que j'ai suivi des cours d'entrepreneuriat et ce qu'on nous apprenait, c'était qu'il fallait toujours tester son idée, qu'il fallait pas venir avec des a priori, des idées toutes faites sur un PowerPoint et proposer un produit. Ce qui est véritablement important dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est le marché qui décide. C'est le consommateur final qui décide s'il est intéressé ou non par le produit. Et moi, je garde cette dimension en tête. Et même aujourd'hui, je me considère comme étant en phase de test. J'essaie toujours d'avoir le retour de mes clients pour qu'ils me disent oui ou non, si je suis sur la bonne voie. Et si je ne suis pas sur la bonne voie, m'adapter. Donc, je suis une personne très flexible et je pense que c'est un atout à avoir quand on est entrepreneur.
Ah, clairement, c'est ce que tu dis là, c'est vraiment extrêmement intéressant et pertinent. Le fait vraiment de côté ne pas se fier à un PowerPoint et tester son marché, être en échange permanent avec les retours du marché, mais qu'il s'agisse des clients, mais aussi d'une audience, parce qu'il y a les personnes qui connaissent la marque et qui ont déjà consommé, mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas encore consommé. L'idée, c'est de pouvoir recueillir un maximum d'informations et mettre des choses en place pour les recueillir, pour pouvoir savoir si ça marche ou pas. Donc toi aujourd'hui, quand tu nous dis que tu t'adaptes, c'est comment tu fais pour recueillir en fait les data, les informations de tes consommateurs ou des personnes qui peuvent être intéressées par ton produit?
J'ai un fichier Excel dans lequel je renseigne les personnes à qui j'ai vendu et en même temps, je suis mes comptes. Et j'ai également sur mon site internet aussi, j'ai des contacts des personnes que j'ai déjà contactées, à qui j'ai déjà vendu, pardon, des produits. Donc, tout ça, ce sont des données que je garde et qui me sont vraiment importantes. Je n'ai pas encore commencé les newsletters, mais je sais qu'il faut vraiment que je m'y mette parce que c'est aussi un moyen de relancer les personnes qui avaient déjà acheté et d'avoir leur retour. Mais en règle générale, je suis très facile d'accès. On peut me contacter sur Instagram, je réponds sur Messenger. J'échange beaucoup avec mes clients, même par mail, parce que je suis encore une petite structure, donc c'est l'avantage. Mais même dans l'hypothèse où je grandis, je vais essayer de garder cette proximité avec le client et de garder les adresses email et ne pas hésiter à les solliciter. Je pense que cet aspect-là est très important et de conserver les données, c'est primordial.
Ok, ben super intéressant. Et du coup, aujourd'hui, en termes de, par rapport à ta marque, donc, t'es sur du Made in Africa, sur la valorisation d'un savoir-faire, en fait, du continent. Tu nous as expliqué que ça faisait partie d'éléments qui étaient importants pour toi. Dès le démarrage et dès la création de la marque, est-ce que tu peux nous en dire plus, en fait, de cet engagement?
Oui. En fait, si je peux parler un peu plus de la marque, moi, je vois Cita Indigo comme une entreprise sociale. Une entreprise sociale qui œuvre pour la valorisation du savoir-faire des artisans guinéens et la promotion de l'héritage culturel ouest-africain. Et ce dernier point est important. Je pense qu'on y reviendra sur l'interview. Tout cela, je le fais à travers le prisme du paille indigo, qui est un tissu traditionnel d'Afrique de l'Ouest. Le consommateur final, ce qu'il voit, c'est un article Cita Indigo, c'est une robe, une jupe, un pantalon qui est teint à l'indigo et qui a une apparence spécifique. Mais nous, derrière, en amont, avant d'avoir ce produit final, on intervient sur la chaîne de production du tissu indigo. On travaille avec plusieurs acteurs, comme par exemple des tisserands. C'est les personnes qui vont fabriquer le tissu grâce à leur machine à tisser. On travaille aussi avec les personnes qui vont attacher le tissu parce que les différents motifs qu'on voit sont obtenus grâce à des techniques d'attache traditionnelles. On travaille également aussi avec les teinturiers, donc les personnes qui vont teindre le tissu pour lui donner sa couleur bleue plus ou moins intense. Et à noter que la teinture indigo est naturelle. Donc en fait, comme tu disais, c'est tout un savoir-faire qu'on essaye de valoriser, tout un savoir-faire qui tend de nos jours à disparaître et qu'on essaye de conserver et surtout de valoriser, de mettre en lumière. C'est véritablement la raison pour laquelle le projet est né. Quand j'ai créé Cita Indigo, je ne me suis pas dit « je vais créer une marque de vêtements et voilà, je vais utiliser des tissus et prendre des photos et vendre ». Ce n'était pas ça le but initial. Le but initial, c'est que j'ai observé qu'il y avait un problème en fait. C'était un peu la démarche entrepreneuriale. Il y avait des artisans qui aujourd'hui avaient du mal à écouler leur stock, avaient du mal à joindre les deux bouts, avaient des problèmes aussi, c'est vrai, de productivité de tissus et aussi qui avaient du mal à trouver leur clientèle. Parce que quand on part sur le marché, à Conakry, à Madina par exemple, c'est vrai que le lépi, on va vous le vendre à 200 000 francs guinéens, l'équivalent de 20 euros, quand le wax, il coûte 60 000 francs guinéens, donc 6 euros. Donc, j'ai vu ces problématiques et je me suis dit que je pouvais apporter une solution, et notamment dans le contexte local, où aujourd'hui, il est question de créer des emplois en Afrique, de créer de l'espoir pour la jeunesse africaine, pour qu'elle puisse, elle aussi, se projeter, avoir un avenir. Je me suis dit que c'était un projet que je devais mener, qui avait une véritable solution à un problème. Et c'était un peu aussi, la petite dimension symbolique, un projet que je me devais de faire. Comme je disais au début de ma présentation, moi, je suis fille d'immigrés. Mes deux parents sont immigrés. Ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils sont arrivés en France. Et moi, j'ai eu cette chance de naître en France. Mais je vois mes cousins, mes cousines, dont les parents n'ont pas eu la chance de faire ce voyage, vivre en Guinée. Et je vois leurs opportunités qui sont limitées. Et je me dis qu'en tant que jeune fille d'origine guinéenne, c'est un peu mon devoir d'œuvrer pour que des personnes aient aussi une chance de s'en sortir, pour que des artisans puissent vivre de leur art et que leurs enfants aussi, s'ils le souhaitent, puissent continuer ça, qu'ils aient de nouveaux débouchés. Voilà, c'est tout ça qui m'a motivée. Donc, chez Cita Indigo, la dimension sociale est assez importante, pour ne pas dire centrale, primordiale. C'est le début de tout Et oui, c'est très important. Je ne sais pas si je me suis un peu éloignée de la question, si j'y réponds.
Non, tu y réponds complètement. Parce que du coup, au-delà même du Made in Africa, moi, ce que je sens dans ce que tu me dis, tu parles d'entrepreneuriat social, mais c'est presque même un engagement politique, en fait. C'est vraiment parce que à partir du moment où on place une entreprise sur un territoire et qu'on cherche à créer de la croissance sur le territoire, créer de l'emploi sur le territoire et le faire de manière pérenne, et puis de, j'imagine, rémunérer correctement chacun des acteurs de la chaîne que tu as cité, on est dans du développement économique et ça, c'est au programme de tous les hommes politiques, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense que le fait que je sois passée par le gouvernement, entre guillemets, que j'ai travaillé avec les acteurs du gouvernement, m'a sensibilisée à cette problématique. Et ça a fait que voilà, j'avais à cœur de faire ça, j'avais à cœur d'agir. Parce qu'il y a beaucoup de discours, on parle beaucoup, il y a beaucoup de stratégies qui ont été élaborées pour les pays africains, ouest africains en particulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'action. Elle a besoin d'action de tous. Ça peut être très bien des Guinéens nés en Guinée, mais quand eux, ils n'ont pas forcément les ressources nécessaires, ça peut aussi être des personnes de la diaspora, ça peut être n'importe qui du moment où on est bien intentionné, qu'on est là pas uniquement pour se faire de l'argent, et c'est très important, c'est de l'entrepreneuriat social. On est là aussi pour rémunérer les personnes à leur juste valeur, valoriser. Ça ne veut pas dire brader les prix, ni exploiter l'humain. On remet l'humain au centre et voilà, on essaie de créer des opportunités. Et comme tu l'as dit, effectivement, c'est en quelque sorte un engagement politique, c'est une philosophie de vie. Tu as raison.
Alors, tu nous disais que, en fait, dans les marchés, au marché de Madina notamment, on pouvait retrouver en fait du lépi à 20 euros, et en face, on pouvait retrouver du wax à 6 euros. Ce wax, à ce niveau de prix assez bas, il vient d'où ?
Ce wax vient de Chine, très souvent. À 6 euros, c'est très souvent le wax chinois. Et parfois, on en trouve aussi un peu plus cher, hein, disons à 10 euros maximum. Et ça, ce serait le wax hollandais. Donc, c'est vrai qu'il y a eu toute une polémique autour du wax. Et les gens en parlent de plus en plus. Mais il faut noter que c'est un produit qui est fabriqué à l'étranger. Parfois, c'est quand même fabriqué en Afrique, je pense notamment à Uniwax, qui ont une usine en Côte d'Ivoire, il me semble. Et auparavant, il y avait plusieurs usines en Afrique de l'Ouest, mais qui ont fermé pour différents motifs. Je pense que c'était pour un manque de productivité, mais je suis pas sûre. Et oui, effectivement, très souvent, ce sont des tissus importés qui sont logiquement moins chers parce qu'ils sont pas produits dans les mêmes conditions. C'est pas des produits qui sont tissés à la main, faits à la main. Donc, c'est évident que les prix soient différents.
Effectivement, c'est intéressant de rappeler cette différence qu'il peut y avoir de prix, en fait, qui est liée entre un travail fait main, un savoir-faire traditionnel, avec toutes les techniques que tu as évoquées tout à l'heure, de nouage, de tissage, de teinture, qu'on va pas retrouver avec une production industrielle faite dans des usines où on va imprimer un tissu avec des techniques où on appelle ça le wax, mais souvent les productions chinoises, c'est pas du wax authentique en tout cas, et donc c'est plutôt des impressions qui permettent de les proposer à des niveaux de prix extrêmement compétitifs. Donc du coup, ce qu'on comprend en tout cas dans ta démarche, c'est que dès le départ, tu avais cet engagement en fait social, solidaire dans la manière dont tu voulais créer cette marque. Aujourd'hui, tu as une équipe avec toi au sein de la marque en fait, de l'entreprise Cita Indigo.
Au sein de l'entreprise, je suis toute seule, mais je suis conseillée par des amis et des membres de ma famille, mes sœurs notamment, qui sont très impliquées. Avec moi sur ce projet. Et après, je gère Cita Indigo tout seul. Donc moi, je suis un peu la personne qui coordonne les tisserands, les teinturiers, les couturiers. Mais il faut dire que je m'appuie vraiment sur le savoir-faire des personnes avec lesquelles je travaille. Parce que j'ai l'avantage de... Je ne sais pas si c'est un avantage, mais ce n'est pas moi qui travaille. Enfin, je travaille, mais ce n'est pas moi qui fais le tissu, ce n'est pas moi qui coule le tissu. Donc, ce que je fais, c'est que je m'associe à des personnes qui font le travail. Et c'est aussi une qualité d'un entrepreneur, pouvoir s'associer avec les bonnes personnes, trouver les bonnes personnes. Et c'est ça vraiment qui fait avancer les choses.
Ok, donc en fait, tu as constitué autour de toi un réseau d'experts qui te permettent de faire tourner la marque, en fait, si tu es Indigo, sans forcément qu'il soit salarié ou associé de l'entreprise. C'est toi, là, on va dire, la tête pensante du projet, mais autour de toi, en fait, il y a une véritable équipe quelque part.
Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça. J'ai une sœur, par exemple, qui est responsable marketing dans un grand groupe et elle m'aide beaucoup à ce niveau-là. J'ai une autre sœur qui a fait du commerce également, du marketing et qui m'aide aussi quand elle le peut. J'essaie vraiment de contacter les personnes selon mes besoins et j'hésite pas vraiment pas à aller contacter les gens, aller à la rencontre des gens. Et pour le moment, ça se passe bien comme c'est. Et s'il le faut, si je dois par la suite m'associer parce que le projet grandit et que je pense que je pourrais pas tout faire toute seule, et en tout cas, on pourra toujours mieux le faire à plusieurs, à ce moment-là, je commencerai à penser. Mais pour le moment, oui, je suis la tête pensante et j'ai recours à des conseils de mon entourage, de mes amis.
Ok. Et en termes de business model, du coup, par rapport à la marque, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents leviers que tu as mis en place pour pouvoir vendre tes collections?
Oui, alors, aujourd'hui, je vends principalement à Dakar et j'ai des partenariats avec des concept stores. Les concept stores sont très répandus ici à Dakar. Il y en a une dizaine, je pense, qui sont spécialisés dans le milieu de la mode. Concrètement, en fait, ils ont des espaces. Donc, le concepteur se porte volontaire pour exposer des vêtements des stylistes et ils prennent un certain pourcentage sur les ventes. Et moi, je travaille actuellement avec deux concept stores à Dakar et j'essaye de travailler avec un autre concept store en Guinée. En fait, c'est plus un magasin en Guinée. On est en train de travailler là-dessus et je travaille également pour être présente à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et voilà, donc ça, c'est un premier canal de distribution. Et j'ai aussi un site internet pour les personnes de la diaspora qui peuvent commander. Et là, c'est moi qui gère l'envoi et tout ce qui est logistique. J'ai un partenariat avec DHL Express. Donc, c'est par ce biais-là que les personnes reçoivent leurs vêtements.
OK. Et aujourd'hui, tu as principalement donc du stock sur le site internet quand on commande. Quels sont les délais de livraison, en fait, ou est-ce que c'est plutôt de la précommande?
Ça ressemble plutôt à de la précommande. En fait, ça dépend vraiment du modèle. Il y a des modèles qui vont être disponibles. Et donc, quand on commande, on peut l'avoir sous une semaine, 7 à 10 jours maximum. Ça, c'est pour les modèles disponibles. Il y a d'autres modèles qui sont en précommande uniquement. Et là, il faut compter 3 à 4 semaines pour recevoir l'article. Avec la crise du Covid, ça a un peu ralenti les activités. Mais avant ça, habituellement, on avait quand même des commandes des stocks assez importants. Mais c'est vrai que ces temps-ci, c'est assez difficile. Mais en général, 7 à 10 jours si c'est disponible et 3 à 4 semaines si c'est en précommande.
Ok. Et toi, aujourd'hui, vis-à-vis du site internet, le fait de vendre une partie de la collection avec du stock disponible, donc livrable sous un délai de 7 à 10 jours, et d'autres, une autre partie de la collection qui est livrable sur un délai un peu plus long, est-ce que tu, en termes de perception par rapport au consommateur, est-ce que c'est bien perçu ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a des demandes pour avoir des livraisons plus rapides? Alors, je parle en dehors du contexte actuel de la crise du Covid où, clairement, il y avait un contexte qui faisait que ce n'était pas possible de livrer plus rapidement. Mais comment est-ce que c'est perçu, en fait, les délais de livraison sur ton site internet?
En général, les personnes qui achètent sur le site internet sont vraiment déterminées à acheter. C'est des personnes qui me contactent et elles savent qu'elles veulent acheter et elles sont prêtes souvent à attendre. Mais c'est vrai que je pense que si les délais étaient plus courts, ça aurait été mieux. C'est toujours mieux de moins attendre pour recevoir un produit. Donc, les personnes qui achètent, pour le moment en tout cas, continue d'acheter malgré les délais qui peuvent être assez longs. Par exemple, je n'observe pas de différence entre les articles en précommande et les articles disponibles. Au contraire, quand j'ai un article qui est en rupture des stocks et qui est très populaire, les gens n'hésitent pas à le précommander, bien qu'ils voient qu'il y a un petit message qui s'apparaît pour leur dire que ça prendra un peu plus de temps. Donc, je pense que ça dépend vraiment des clientes. Celles qui commandent, en tout cas, sont celles qui sont vraiment déterminées à acheter, c'est-à-dire qu'elles savaient qu'elles le voulaient et elles sont prêtes à tout. Mais je pense que je pourrais gagner des clientes en diminuant mon temps de livraison, bien sûr.
C'est à voir. En tout cas, le sens de ma question, c'était vraiment justement plutôt pour se dire qu'aujourd'hui, quand on est sur un savoir-faire traditionnel et quand on a expliqué toutes les étapes, on est capable de faire comprendre à un consommateur que derrière cette qualité, ce savoir-faire, il y a un certain délai qui est incompressible. Et j'aime bien l'expression que tu emploies quand tu dis on a des clients qui sont déterminés en fait et donc qui vont attendre parce que c'est vraiment cette pièce-là de la marque Cita Indigo qu'ils ont choisi. Donc moi j'aurais tendance presque à me dire que habituer le consommateur à attendre, c'est aussi quelque part l'éduquer parce qu'on n'est pas dans des productions industrielles qui peuvent se renouveler en un temps record. On est dans un savoir-faire traditionnel, donc on est dans des délais qui restent ma foi honnête pour du made in Africa, en fait, 7-10 jours pour un produit qui est en stock et l'équivalent d'un mois pour un produit en précommande par rapport à des délais en précommande qui peuvent être proposés par des jeunes créateurs qui sont basés ici en France, c'est équivalent, hein. C'est pas, voire même, enfin, ouais, voilà, c'est équivalent. Donc, coupe sur la production made in Africa, c'est plutôt sain comme business.
Ouais, c'est vrai, mais tu as raison, tu as totalement raison.
La question qui me vient là, il me semble que l'année dernière, tu avais participé à la Dakar Fashion Week et moi, j'avais eu l'occasion de découvrir en fait ta collection pour la première fois lors de ce défilé. Est-ce que c'était quelque chose qui était inscrit dès le départ dans ta feuille de route de développement de ta marque, de participer à un événement sur le continent?
Ça s'est vraiment fait naturellement, je dirais. En fait, moi, j'ai lancé ma marque de vêtements au début de l'année 2019. Donc, c'est à partir de 2019, janvier 2019, que j'ai commencé à me consacrer à temps plein à mon projet. Et je lançais ma première collection et puis j'ai vu sur Internet une publicité de la Dakar Fashion Week qui incitait les stylistes à postuler s'ils étaient intéressés. Et là, je me suis dit, bon, je vais bientôt lancer une collection, ça peut être un bon moyen. J'arrive à Dakar et voilà, je suis toute nouvelle, c'est une nouvelle marque et voilà, ça va être quelque chose de vraiment inédit. Donc, ce serait pas mal si j'avais un petit coup de pub. Et donc, j'ai postulé en envoyant des photos, mais bon, je savais pas bien, très bien si ça allait prendre ou pas. Et j'ai été surprise qu'on me recontacte et qu'on me dise que je suis éligible, que je puisse participer au projet. Et quand j'ai fait cette expérience, c'était la toute première fois. Moi, je me définis comme un entrepreneur et j'ai beaucoup plus de mal avec le côté designer, même si c'est vrai quand même que je fais du design parce que je propose des vêtements. C'était la toute première fois. J'appréhendais un peu la chose. Je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur? Ouh là là, je vais faire défiler des personnes avec mes vêtements, des personnes qui ont de l'expérience. L'organisatrice était Adama Paris qui fait ça depuis des années. Je me suis dit, il va falloir que je sois à la hauteur et j'espère que je le serai. Et voilà, c'était un peu encore une fois un défi. J'ai vu les potentiels effets bénéfiques et je me suis dit, il fallait que je le fasse. Et donc, c'est comme ça qu'en juin 2019, J'ai travaillé sur 10 créations que j'ai présentées à la Fashion Week et c'était vraiment une expérience extraordinaire parce que ça m'a permis de faire connaître ma marque. À la suite, j'ai été mentionnée dans un article de Jeune Afrique, pardon, et ça m'a vraiment donné plus de visibilité, que ce soit au niveau local au Sénégal, mais également aussi au niveau régional. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Que je recommande à toute personne qui vient de lancer sa marque, tout jeune styliste. Vraiment, c'était enrichissant. J'ai pu rencontrer d'autres stylistes. C'était vraiment agréable comme expérience. Et si je devais le refaire, je le referais.
D'accord. Du coup, super intéressant comme témoignage sur le fait que pour toi, ça a vraiment, les retombées, en fait, ont été bénéfiques. Ça a été bénéfique en termes de notoriété, de visibilité, puisque tu venais de lancer ta marque. Et en termes de prise de commande, de chiffre d'affaires, tu as eu des retombées positives également?
Oui, oui, également. Bon, c'était ma première année où j'étais à 100%, donc je pouvais pas comparer à une année précédente. Mais à la suite de la Fashion Week, j'ai été contactée par des concept stores qui sont venus me contacter pour que j'aille exposer. Et j'ai pu par la suite vraiment vendre, bien vendre, parce que c'était l'été qui venait après ça. J'ai pu bien vendre et j'ai pu consolider des partenariats avec des concept stores. Donc vraiment, ça a été très bénéfique pour moi.
Ok, super. Super, ça, c'est du coup un bon exemple, en fait, une bonne fashion success story à raconter où dès le départ, tu fais le pari de faire un défilé alors que c'est vraiment une première expérience pour toi et où tu as tous les indicateurs qui sont ouverts et ça fonctionne bien à la fois en termes de notoriété et à la fois en termes de chiffre d'affaires parce que c'est vraiment les deux leviers qu'il faut pouvoir analyser pour se dire, faire le bilan après de la participation à ce type d'événement et de pouvoir se dire ça a été bénéfique ou pas. En termes de consommateurs, tu me dis que tu as été contacté par des concept stores, que tu as eu des articles. Est-ce que tu as, et puis tu me disais tout à l'heure que tu avais ta base de données en fait de personnes qui avaient acheté la marque, est-ce que tu peux dresser un espèce de portrait, de persona de la cliente Cita Indigo?
Ouais, la cliente de Cita Indigo, c'est une femme déjà, parce que je fais majoritairement des produits pour femmes. Elle est active, elle a entre 25 et 40 ans, je dirais. Donc, elle a un certain pouvoir d'achat parce que les pièces sont autour de, je dirais, 80, 100 euros. Donc, il faut pouvoir, c'est un budget, il faut pouvoir être en mesure de s'acheter ces pièces-là. Elle est souvent soit d'origine africaine, donc soit afro-descendante, soit africaine. J'ai beaucoup de personnes africaines et afro-descendantes. Voilà, donc une jeune femme, 25-40 ans, afro-descendante. Voilà, c'est le profil.
Ok. Et en termes de concurrence, en fait, par rapport à cette marque, est-ce que toi, tu identifies des marques concurrentes ou est-ce que tu identifies, en fait, même si c'est pas une concurrence directe, est-ce que tu as finalement des marques de référence qui sont des inspirations pour toi?
Oui. En fait, des marques qui sont centrées sur l'indigo, comme je le fais, j'en connais pas vraiment. Mais je sais qu'il y a de nombreuses marques qui, de plus en plus, ont cette conscience et qui essayent d'utiliser des tissus africains, que ce soit du panier indigo, du faso d'Afani ou du bogolan ou autre. C'est pas une concurrence directe, je dirais. C'est plutôt indirecte. Mais toujours est-il que c'est une concurrence. Je vois plein de jeunes marques, de jeunes stylistes qui lancent des entreprises et qui vendent sur des sites internet, qui font de la vente en ligne. À Dakar, c'est vraiment une ville très créative. Où de nombreux stylistes ont leur marque, ont leur site internet. Donc, il y a énormément de concurrents. Mon avantage, je dirais, c'est que les gens, souvent, ne se centrent pas sur un tissu spécifique parce que c'est vrai que c'est très difficile au quotidien parce qu'on dépend vraiment de ça. Les gens peuvent très bien utiliser de l'indigo, du faso, mais aussi, je ne sais pas, de la soie ou autre chose. Ils sont plutôt... ils ont une identité un peu plus plurielle. Et je dirais que pour Cita Indigo en tant que tel, pour la teinture indigo, je dirais que c'est assez unique et c'est un avantage, à mon avis.
Ok, très bien. Super intéressant. En fait, toi, l'ADN de la marque, il est vraiment extrêmement fort et il est complètement lié à ton sourcing, au fait que tu utilises du savoir-faire de Guinée. Et finalement, c'est ce qui fait ton avantage concurrentiel et ta différence.
Exactement, c'est ça. C'est ce qui fait, c'est tout ce qui, c'est très difficile, mais en même temps, ça m'avantage parce que sur ce créneau-là, je vais pas trouver beaucoup de personnes. Pas beaucoup de personnes qui vont se lancer dans ça.
Et du coup, quelque part, tu as peut-être une envie ou un objectif de devenir la marque de référence, en fait, du lépi de Guinée.
Exactement. En fait, quand j'ai lancé le projet aussi, j'avais un peu regardé les marques autour de moi et je trouvais que parfois, vous savez, pour faire une marque, il faut une identité forte. Et parfois, c'est assez personnel, hein, je sais pas si c'est la vérité, c'est le ressenti que j'ai. J'ai l'impression que les marques ont du mal à trouver une identité. C'est-à-dire que parfois, on peut pas reconnaître un article. Et c'est ce qui fait le succès d'une marque, d'une marque à succès, c'est que quand on voit le produit, on pense directement à une marque. Et toutes les entreprises n'arrivent pas à le faire. Et moi, j'ai fait le pari qu'avec la teinture indigo, puisque c'est une teinture qu'elle peut se modifier à l'infini, ce n'est pas finalement, en fait, l'indigo, on pourrait créer des motifs à l'infini et trouver des nuances de bleu à l'infini. du plus foncé au plus clair. Je me suis dit que le pari, je vais le faire sur ça, sur l'indigo, sur le fait que ce soit quelque chose qui est respectueux de l'environnement, sur le fait que ce soit fait à la main. Et tout ça, pour moi, ce sont des atouts que la mode va adopter dans l'avenir. On cherche une mode responsable, une mode équitable, une mode respectueuse de l'humain, de l'environnement. Voilà. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui avait du potentiel pour l'avenir. C'est pour ça que je me suis lancée sur ce créneau-là, bien que j'avoue que ce soit très compliqué et qu'il y a des obstacles liés à tout ça. Parce que quand on fait faire ses habits par des artisans, parfois il y a des délais, c'est fait à la main. La main, c'est pas une machine. Il peut y avoir des erreurs. Tout ça, c'est des choses à contrôler, à améliorer au fur et à mesure.
Ok. Je trouve ça super intéressant, cette notion d'ADN qui est ancrée, en fait, dès le départ dans ton idée originale de création de marque. Et effectivement, le fait de vouloir se dire « j'ai choisi un créneau qui est très spécifique, c'est presque limite une niche, c'est un tissu en particulier ». Qui, s'il est exploité de manière habile, en fait, il va te donner des opportunités, des variétés, en fait, relativement larges, finalement, d'expression. Parce qu'au niveau de la teinture, il y a beaucoup de possibilités. Et je pense que tu pourras nous parler de variantes de couleurs que tu as pu proposer. Donc, c'est intéressant, en fait, de voir comment ce choix-là, là où il est important, c'est qu'il permet de remarquer une marque, d'identifier une marque et de finalement, se différencier de toutes les autres. Et ça, ce travail-là d'ADN de marque, ce travail-là de recherche de reconnaissance, c'est effectivement une démarche que tous les entrepreneurs ou tous les créateurs de marque n'ont pas toujours, parce que parfois on cède à un phénomène de mode. Le wax est à la mode, on fait tous du wax. Ou tel type de produit est à la mode, on va tous aller dans cette... Le tie and dye est à la mode, on va tous faire du tie and dye. Alors que le fait de choisir d'avoir une matière comme étant l'élément central, quelque part, toi, ça te donne finalement une intemporalité qui est une force. Est-ce que tu peux nous parler donc du coup des différents, peut-être, je ne sais pas si c'est des tests, mais en tout cas des différents tissus que tu as pu, enfin variantes en tout cas de l'épi que tu as pu proposer avec Cita Indigo.
Bien sûr. Donc, au départ, donc la première année, l'année 2019, c'était une année où j'étais en phase test. Donc, je me disais, j'avais quand même quelques idées sur le potentiel, parce que j'avais commencé à tester, comme je racontais au début de l'interview. Mais je me disais, je vais continuer à tester avant de d'investir beaucoup d'argent dans ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec un commerçant, un revendeur. Auprès duquel je prenais tous mes tissus. Et donc, j'achetais le tissu tel que les artisans me le proposaient. Je n'avais pas véritablement de modification. La seule chose que je faisais, c'est que je le lavais au vinaigre et au gros sel parce qu'il déteignait. Donc, j'ai commencé toute ma première collection avec ce qu'on pouvait déjà trouver chez les artisans, ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et maintenant, donc j'ai vendu ça. Donc, c'est tout ce qu'on peut voir en ce moment sur mon site. Et cette année 2020, c'était l'année où j'ai dit, d'accord, j'ai vu ce qu'ils savent faire. Et je pense qu'il y a des améliorations à faire. Parce que comme je disais, la plupart des tissus, c'est soit du pain tissé, soit une base basin. C'est un peu rigide. Et j'ai vu que la mode, aujourd'hui, c'était beaucoup des matières fluides, agréables à porter. Les gens accordent beaucoup d'importance à se sentir confortable dans les tenues qu'ils achètent. Et donc, j'ai commencé à penser à des tissus qui pourraient bien convenir. J'ai pensé notamment au lin. Le lin qui est un tissu qui est plutôt écologiste, oui. Et j'ai pensé au lin, j'ai pensé au coton léger, j'ai pensé à des matières en fait plus agréables à penser. Et donc, en février dernier, j'ai été avec ma sœur d'ailleurs, on s'est rendu auprès des artisans, à la source. On est allé voir trois familles différentes. Donc, quand on arrive là-bas, en fait, on est chez les gens. Les teinturiers, les personnes qui attachent, ils vivent, c'est leur maison en fait, leur lieu de travail, c'est leur maison. Donc on est arrivé chez ces teinturiers, chez toutes ces personnes qui attachent le tissu et qui tissent le tissu, on leur a expliqué notre projet. Et là, ils avaient les yeux grands ouverts et ils nous disaient toujours, mais ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Non, nous, c'est comme ça qu'on nous a appris, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cette mentalité d'essayer de faire évoluer. C'est juste que eux, ils connaissent un produit et ça marche plutôt bien, plus ou moins bien en tout cas. Ça leur permet de d'avoir quelques recettes, donc ils vont rester sur cette voie-là. Et là, quand on est arrivé, quand je suis arrivée avec ma sœur et qu'on leur a dit, écoutez, on a des tissus là avec nous. Est-ce que vous pouvez tester dans l'eau, tester la teinture? Et là, au départ, ils étaient très réticents, mais finalement, ils ont accepté de faire le test devant nous. Et c'était marrant parce qu'il y avait certains tissus pour lesquels ça prenait et d'autres pour lesquels ça prenait pas. Par exemple, les tissus très lisses qui ont des matières synthétiques ne prennent pas du tout, comme la soie, le polyester, ça ne prend pas. L'indigo, c'est pas pour rien qu'en fait, on utilise du coton. Il faut qu'il y ait un grand pourcentage de coton dans le tissu pour que ça prenne. Donc, c'est à partir de là que les teinturiers ont essayé. On a vu avec eux quel tissu marchait, quel tissu ne marchait pas. Donc, ça a pris un peu de temps. On a fait un voyage de 2 semaines en Guinée où on était sur place. Et on a travaillé avec eux. Juste pour le moment, on part étape par étape. L'étape qu'on a franchie, c'est de changer la matière du tissu. Et là, bon, on a été un peu ralenti par le Covid-19, mais j'ai commencé à recevoir les premiers prototypes qui sont très concluants. Et d'ailleurs, la prochaine collection, ce sera ça. Ce sera d'autres matières. Ce sera du lin, ce sera du coton léger, ce sera vraiment des matières un peu plus agréables qui font un peu moins festif, je dirais, parce que parfois le basin peut faire assez habillé. Et ce sera aussi des matières plus confortables à porter. Donc ça, par exemple, c'est une innovation qu'on a apporté en quelque sorte. Ça fait partie du processus. Dans l'idéal, on irait jusqu'à changer de matière et changer des motifs, trouver d'autres motifs que les gens n'ont encore jamais vus et les tester, etc. Mais pour le moment, on fait vraiment les choses petit à petit parce qu'il s'agit aussi de gagner la confiance des artisans. Quand on est arrivé chez eux, qu'on leur a expliqué notre projet, ils nous regardaient un peu bizarrement en disant « Mais qui sont ces personnes? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Voilà, est-ce qu'ils ne sont pas de mauvaises intentions? Est-ce que je peux vraiment me fier à ça ?» Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec ces personnes. Vraiment, on essaie d'établir des partenariats gagnants-gagnants qui voient, qui prennent conscience qu'on est de bonnes intentions et qu'on puisse développer des habitudes de travail. Et petit à petit, on va commencer à améliorer, à changer les motifs, etc., à trouver encore d'autres tissus et voilà, à proposer de la variété et plus d'innovation. Donc, les choses se passent de manière graduelle. J'ai commencé avec ce qu'on trouvait sur le marché. J'ai proposé ça et j'ai vu qu'il y avait une bonne réception du produit. Et j'ai continué avec des produits qui seraient plus agréables à porter parce que je me suis dit que si les gens sont prêts à acheter le produit alors qu'il pourrait être amélioré, une fois qu'il sera amélioré, normalement, il y aurait encore plus de gens qui seraient intéressés. Voilà, c'est la démarche que j'ai suivie et c'est celle que je suis pour tenter d'apporter des éléments d'innovation à chaque étape du processus. Mais c'est quelque chose de lent qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience. Mais pour le moment, je suis très bien entourée et j'en fais preuve. Donc, voilà.
Super, c'est super intéressant ce que tu nous racontes, en fait, en tout cas dans ta démarche de t'appuyer sur le savoir-faire des artisans pour pouvoir proposer des innovations et de montrer aussi ce qui est vraiment intéressant dans ton témoignage, c'est de parler très honnêtement des réticences de ces artisans à l'idée de changer, de tester des choses nouvelles. Donc c'est comme si tu mettais en place en fait un laboratoire où on teste différents supports jusqu'à trouver le bon. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'apporter quelque part une forme de modernité ou en tout cas d'injecter quelque chose de contemporain à cet artisanat et c'est vraiment le mariage entre toi, ta connaissance de ce que peuvent attendre les clients potentiels et ce savoir-faire traditionnel qui va faire que on va pouvoir proposer un produit qui va rencontrer l'adhésion du client et du coup donner des débouchés à ces artisans et à toute cette chaîne de valeur africaine puisque l'enjeu après c'est de pouvoir se dire ces ateliers-là ils vont prendre l'habitude régulièrement de tester des nouvelles matières et d'être capable de proposer des nouvelles matières en support, des nouvelles peut-être techniques de teinture et puis aussi des nouveaux motifs comme tu le dis. Donc ta démarche en plus dès le début, parce que là c'est la deuxième, même pas troisième année de fonctionnement de ton entreprise avec un contexte Covid qui est assez compliqué, c'est vraiment super intéressant d'avoir intégré cette démarche-là dès le départ et je pense que tu peux d'autant plus le faire que dès le départ le sourcing il était clé dans la création de ton business. Donc, j'entends cette évolution au niveau des matières. Est-ce qu'il y a une évolution aussi au niveau, pour le coup, du style, des formes, du design?
Ouais, pareil. Pour le style, il y a une évolution. J'essaye d'aller vers quelque chose de plus épuré, toujours plus simple. Parce qu'en fait, le motif indigo, il ne laisse pas indifférent. C'est quelque chose de chargé. C'est une couleur profonde et c'est très particulier. Donc, pour le mettre en valeur, il n'y a pas besoin de faire énormément. Vraiment, j'essaie d'adopter un style épuré, simple, d'aller au plus simple, au plus efficace, au plus confortable. C'est vraiment ma philosophie en ce moment.
Ok. Et aujourd'hui, tu travailles avec une styliste ou tu travailles du coup en direct avec, avec un maître tailleur, avec un couturier avec lequel tu échanges pour le développement des collections?
Je travaille en direct avec un couturier. Après, j'espère que le jour où Sita va se développer, ça va être un peu plus grand. Je n'exclus pas du tout, au contraire, même ce que je pense faire, c'est prendre des stylistes qui s'occuperont de ça. Comme ça, ça pourra me libérer mon temps pour me consacrer à d'autres tâches. Parce que comme je disais tout à l'heure, pour le moment, je suis toute seule et je demande l'aide de personnes qui m'entourent au besoin. Mais il faut aussi montrer beaucoup de polyvalence dans ce que je suis aujourd'hui. Je suis un peu partout. Je suis dans le marketing, je suis dans la production, je suis dans la logistique. Je fais un peu de tout. Je suis dans l'administratif, les finances. Je fais un peu de tout. Mais c'est normal parce qu'au début, quand on entreprend, on a des moyens limités. Il faut qu'on fasse nos preuves. Il faut qu'on montre que ce qu'on a, ce n'est pas juste une idée qui est sortie de notre tête, qu'on a réussi à tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Voici mes chiffres, voici mon chiffre d'affaires. Ça, c'est très important parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent que oui, il est difficile de trouver un financement en Afrique, auprès des banques notamment. Effectivement, c'est vrai. Les taux d'intérêt sont très importants, et notamment quand on compare à d'autres zones comme en France, que je connais, mais il faut aussi qu'on ait ce réflexe de se dire on part avec les moyens qu'on a, on part avec le capital qu'on a, on essaie de tester notre produit au maximum et on essaie d'aller le plus loin possible avec nos moyens. Et moi, c'est exactement ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire que je vais le plus loin possible avec l'argent que j'ai et le jour où je ne pourrai pas, où ça stoppera, là, j'irai voir une banque, je ne sais pas, un incubateur ou autre et je leur expliquerai. Voilà ce que j'ai fait, voilà mon chiffre d'année de l'année 1, voilà mon chiffre d'affaires de l'année 2, voilà mes clients que j'ai, voilà la base que j'ai, voilà les personnes qui me suivent. Je pense que c'est plus qu'une idée aujourd'hui et je pense que j'ai démontré que c'est un projet bancable, c'est un projet dans lequel vous pouvez investir. Je pense que c'est cette démarche-là que j'adopte et je conseille aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans n'importe quel domaine d'ailleurs, d'adopter cette démarche-là parce que c'est celle-là qui va nous aider parce qu'on aura beau en parler d'une belle manière. Parfois, les investisseurs, que ce soit privés ou les banques, ils veulent des chiffres, ils veulent du concret. Ils veulent qu'on puisse leur prouver que ce n'est pas juste une idée qui sort de nulle part et qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Et c'est ce que je fais aujourd'hui.
Encore une fois, c'est super intéressant ce que tu nous évoques parce qu'il y a toujours ce côté très pragmatique, opérationnel et concret dans ce que tu évoques. Et effectivement, il y a eu un effet un peu start-up où des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs ont voulu se lancer dans la création d'une entreprise, que ce soit dans le domaine de la mode ou autre, et sont allés à la course, à la recherche aux investissements et à la course au pitch. Donc, c'est des personnes qui vont être très douées pour faire des présentations PowerPoint et pour pitcher en un quart d'heure, en une heure, en 20 minutes à un projet, mais qui derrière, tout le temps passé à faire ça, c'est du temps qu'on passe pas à vraiment, parfois en tout cas, dans certains cas, je dirais pas que c'est la majorité, mais parfois il y a un côté, je passe beaucoup de temps à aller chercher des financements et j'en passe peut-être pas suffisamment à vraiment analyser mon marché, structurer mon entreprise, m'assurer que mon idée, elle est vraiment viable, comme tu disais, elle est vraiment bankable. Et parce que, et là, pour le coup, comme tu l'as très bien dit, quand tu as fait tout ce travail de te constituer une communauté, de développer tes produits, de vérifier ton idée par toi-même, quand tu vas voir un potentiel investisseur, tu as des éléments concrets pour le convaincre et les chiffres séduisent d'eux-mêmes en fait. On n'a pas tellement besoin de très grands discours quand on a des chiffres, donc ça c'est super intéressant. En termes du coup de communication, toi qu'est-ce que tu as mis en place pour faire connaître ta marque? Tu nous parlais du défilé qui a été à un moment pour toi qui a été assez fort pour te permettre de gagner en notoriété. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme moyen, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir faire connaître ta marque?
Aujourd'hui, la communication se passe essentiellement sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple, Facebook. Je n'ai pas encore de compte Twitter, mais il va falloir que j'en crée un pour citer un niveau. Ça va être une des priorités pour les prochains jours. Mais voilà, ce sont les moyens que j'ai mis en place. C'est les moyens, je dirais même, qui sont devenus classiques. Donc, je poste des photos sur les réseaux sociaux quand j'ai du contenu. C'est vrai que je ne poste pas très fréquemment. Là encore, c'est quelque chose sur lequel je vais devoir plus travailler. Mais parce que j'essaie d'avoir des contenus de qualité. Et pour avoir du contenu de qualité, c'est aussi un certain investissement, c'est un travail, c'est toute une stratégie à élaborer. Donc oui, pour le moment, Instagram et Facebook et site internet aussi, le site internet sur lequel on vend.
Ok, je me permettrai un conseil par rapport en tout cas à tout le travail que tu fais avec les artisans, le savoir-faire traditionnel et si tu as des visuels, alors j'imagine que tu en as, mais en tout cas... tout visuel, photo, vidéo qui montre tout le savoir-faire, c'est des choses qui sont, c'est des contenus en fait qui sont très intéressants et Pinterest, ça peut être aussi une opportunité en fait de présenter du savoir-faire, des tissus, des techniques, de parler de la marque quelque part peut-être même de manière plus pertinente que sur Twitter où on est plus dans une recherche de mots et de débats. Là où sur Pinterest, on est plus dans une idée de mood board et pour le coup, par rapport aux lépis, il y a vraiment des choses intéressantes à raconter.
D'accord, super. Je connais Pinterest, mais c'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. C'est super comme conseil. Merci beaucoup, j'en tiendrai compte. Et pour les artisans en train de travailler, c'est très important, oui. Et je pense que le prochain axe de communication, le grand axe de communication, ça va être de me rendre avec un photographe et une personne qui puisse prendre des vidéos auprès des artisans pour qu'ils puissent expliquer un peu leur travail, etc. Mais ça va être un assez gros projet qu'il va falloir un peu organiser. Mais je pense que c'est aussi un peu ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, je présente mon produit final et je pense que certaines personnes apprécient. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce sur quoi il va falloir que je travaille aussi, c'est le côté l'artisanat, le savoir-faire, l'héritage culturel qui est très important aujourd'hui parce que de plus en plus, les gens recherchent de l'authenticité. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel on va vraiment travailler. Mais merci du conseil.
Mais je t'en prie. Et d'autant, du coup, tu disais que tu cherches à avoir du contenu de qualité, donc tu veux pouvoir travailler en collaboration avec vidéastes, photographes. Aujourd'hui, par rapport au shooting de tes collections, tu travailles avec des équipes du coup qui sont à Dakar ou qui sont en Guinée ?
J'ai fait les deux. J'ai fait... le tout premier shooting, c'était en fin 2018. C'était le shooting pour les pièces que je vendais à mon entourage et aux amis des amis. Ça, je l'ai fait en Guinée avec un photographe guinéen. Puis, j'ai fait un shooting aussi à Dakar en mars 2019. C'était avec un photographe sénégalais, du coup. Et là, le prochain shooting qu'on va faire, j'espère, si la situation nous le permet, ce serait à Paris, pour changer un peu, avec un photographe brésilien, normalement, mais rien n'est encore confirmé, c'est une exclusivité.
Ok, on a hâte de voir ça, en tout cas. Effectivement, aujourd'hui, en tout cas, alors, je sais pas comment tu as vécu la dernière période, mais il y a vraiment un développement de Fashion Week online avec les événements du Covid. Donc, je sais pas toi, comment tu vois cette mise à disposition de contenu par les jeunes créateurs qui sont des vidéos, qui sont des formats de présentation de collections qui sont assez différents de ce qu'on pouvait voir traditionnellement. Donc, est-ce que tu vois ça comme une opportunité ou est-ce que tu es plutôt... comment t'envisages en fait finalement ce concept de Fashion Week online ?
Je trouve ça très ingénieux. C'est vrai que là, en ce moment, on peut pas organiser d'événements, donc le faire en vidéo, il me semble que c'est la chose la plus raisonnable que je vois. Donc c'est super. J'ai même vu aussi qu'il y avait une créatrice nigériane qui avait fait plus qu'un défilé en ligne. C'était un modèle 3D qui portait des vêtements. Je crois que c'était Anifa, mais je me souviens plus du nom. Je suis pas très sûre. Toutes ces initiatives qui naissent, je trouve ça vraiment innovant et c'est quelque chose que je n'hésiterai pas à utiliser au besoin. Aujourd'hui, on est dans une phase de déconfinement de plus en plus, donc la vie commence à reprendre, mais on ne sait pas quand est-ce que le virus va s'en aller définitivement. Donc, on a toujours ce risque-là que d'être de nouveau confinée. Mais ces initiatives qui naissent sur le web, des défilés en ligne, des mannequins 3D, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment si la situation venait à se détériorer ou ne pas s'améliorer. Mais après, je pense que si ça va mieux, l'humain, c'est toujours mieux. Le vrai défilé ne pourra. Je pense pas qu'un défilé en ligne pourra remplacer un défilé physique, parce que c'est la mode, c'est aussi l'homme, c'est l'humain, c'est les interactions, c'est tout ça en fait. Donc je pense que c'est très intelligent de le faire, et j'espère vraiment que à l'avenir on n'aura pas forcément à communiquer de cette manière-là.
Ok, j'entends ton point. Alors du coup, pour le défilé 3D, c'est Anifa, et c'est une Américaine d'origine congolaise, et effectivement, elle a fait une présentation de collection qu'elle a publiée sur AGTV, qui était avec un mannequin 3D. Moi, ce que je trouvais intéressant, en tout cas par rapport à tout ce qui s'est passé là, c'est que je pense que c'est une invitation à ce que les créateurs se mobilisent pour effectivement être dans une possibilité de créer du contenu vidéo de plus en plus. Mais effectivement, là où je te rejoins, c'est que ça va pas venir remplacer l'événement classique du défilé, mais ça va venir compléter, ajouter. Ce que je trouve intéressant dans toutes ces présentations de collection, c'est qu'on a une partie de la vidéo où on a un défilé avec le mannequin qui fait un aller-retour sur un catwalk, mais on a aussi une présentation du designer qui va s'exprimer. On a une possibilité de voir les produits dans un showroom. Et donc, on a aussi parfois une présentation du savoir-faire. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est que ça donne une opportunité d'aller plus loin que finalement d'avoir plusieurs mannequins qui défilent avec des pièces, en fait. On en apprend un peu plus sur la marque. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant d'avoir accès à des informations auxquelles on n'avait pas forcément accès jusqu'ici.
Tout à fait. C'est vrai. Je suis totalement d'accord.
La question qui me vient, moi j'aime bien toujours en fait, au fil des interviews que j'ai fait avec des professionnels qui sont sur le continent et qui travaillent, qui évoluent en fait dans le business de la mode en Afrique, c'est les terminologies que l'on emploie pour parler de l'industrie de la mode ou pour parler de mode africaine. Donc toi, qu'est-ce que cette expression en fait mode africaine, elle évoque pour toi? Comment est-ce que tu l'as définie en fait? La mode africaine, c'est quoi pour toi?
Alors, on entend souvent parler de mode africaine. La mode africaine, ce serait quelque chose avec des couleurs vives, des couleurs chaudes. On parle de tenues ethniques, folkloriques. On parle souvent de wax. Un terme qui revient aussi, c'est l'originalité, le fait de se démarquer, de ne pas passer inaperçu. Tout ça, ce sont des idées dans lesquelles moi-même j'ai baigné pendant longtemps. Et avant de me lancer chez Cité Indigo, pour moi, la mode africaine, c'était tout ça. C'était les couleurs, c'était l'ethnique, le folklorique, etc. Quand je suis arrivée en Guinée, ma vision a quelque peu changé. Quand je suis arrivée au marché à Madina, j'ai vu qu'effectivement, c'était un aspect de la mode africaine, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui portent du wax, beaucoup d'hommes qui portent des chemises en wax et que c'est coloré. Mais dire que la mode africaine se résume à ça, ce serait une grosse erreur. La mode africaine, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Et c'est dommage que ce ne soit que ça qui soit représenté, à mon humble avis. Quand je suis arrivée en Guinée et que j'ai commencé à m'intéresser au tissu, j'en ai découvert de nombreux, comme le Faso d'Afani du Burkina Faso, le panier indigo évidemment, le bogolan du Mali, qui est très populaire en ce moment, mais aussi le forêt sacré de la Guinée, qui est fait avec de l'écorce et de la noix de kola. Donc, vraiment, et ce sont des tissus qui sont très loin de tout ce que j'ai énoncé auparavant, très loin des couleurs vives, chaudes, du folklore, de l'ethnicité, très loin de tout ça. Ce sont des tenues, souvent avec des colorations naturelles, de ce qu'on trouve dans la nature. Donc, c'est souvent du brun, c'est du bleu, c'est des choses qui sont sobres, épurées. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais on ne nous a pas tout dit. On a voulu nous montrer qu'un aspect de la mode africaine. Donc, je me dis qu'il y a vraiment, avec mode africaine, il y a des idées qui se cachent derrière. Et c'est vraiment un raccourci, c'est une définition partielle. La mode africaine, elle est plurielle, elle est difficile à définir. Et à défaut de le faire, en tout cas, on peut dire avec certitude que ça n'est pas que les couleurs, ça n'est pas que le folklorique, etc. Pour définir après ce que moi j'entends par mode africaine, je pense qu'il y a différents critères à prendre en compte. Et selon le critère qu'on va prendre en compte, on va dire que c'est un mode africaine ou pas. Si on dit par exemple c'est la géographie qui est importante, qu'on dit que ce qui est africain, c'est ce qui est produit en Afrique, dans ce cas-là, on va prendre le lieu de la confection comme ce qui va primer et ce qui va donner la dimension africaine aux vêtements. Donc, dans ce cas-là, on pourrait très bien prendre un tissu wax ou quel que soit le tissu de la broderie anglaise et le confectionner en Afrique et ce serait africain. Après, on pourrait dire que l'africanité, ça vient de la nationalité de la personne qui fait le vêtement, enfin, du styliste plutôt. Et dans ce cas-là, on dira que la mode africaine, c'est la mode qui est faite par des Africains ou des personnes d'origine africaine, qu'elle soit sur le continent africain ou pas du tout, qu'elle utilise des tissus traditionnels ou pas du tout. Après, il y a une autre définition et c'est celle que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est celle qui s'inscrit dans ce que je fais avec Cité Indigo. C'est la définition de la culture, finalement. Dire que, en prenant des pincettes, parce que les cultures sont diverses en Afrique, c'est un continent avec 54 pays, avec différentes cultures, donc 54 cultures différentes, voire plus si on prend en compte les ethnies. Donc, il faut faire très attention, mais on pourrait dire aussi que la mode, finalement, c'est le reflet de la culture, c'est un reflet de tradition, c'est quelque chose qui est propre à un pays, qui est unique à un État, qui fait en sorte que le pays se distingue d'un autre pays, qui se reconnaisse. Et on parle souvent de patrimoine dans ce cas-là, on parle de techniques ancestrales, etc. On parle d'héritage. Et je trouve que cette dimension-là est importante. Après, pour parler de culture africaine, il faudrait encore là encore qu'il y ait une culture africaine homogène. C'est-à-dire qu'il y a un point commun à toutes ces cultures-là. Est-ce que c'est les motifs? Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque fois, on retrouve des motifs? Est-ce qu'on peut dire que le pain tissé, par exemple, c'est quelque chose qui revient? Est-ce qu'on peut dire que l'usage du coton, c'est quelque chose qui revient en Afrique? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que les boubous, c'est quelque chose qui est commun à toute l'Afrique? C'est difficile à dire, en réalité. Je pense que, en résumé, il n'y a pas une mode africaine. La mode africaine, elle est plurielle. La mode africaine, ce n'est pas seulement ce qu'on représente aujourd'hui, ce que certaines personnes représentent. Ce n'est pas seulement les couleurs, ce n'est pas seulement les motifs, etc. Ce n'est pas seulement le wax, c'est aussi des tissus traditionnels. Il est très important de mettre en lumière ces tissus-là parce qu'ils tendent à disparaître et qu'ils sont des véritables leviers de développement économique pour un pays. Et aujourd'hui, à l'heure où des personnes immigrent en bateau et meurent en mer, où on cherche à créer de l'emploi et on cherche à favoriser l'entrepreneuriat, je pense que cette dimension-là, la mode africaine, c'est-à-dire qu'un styliste africain, a tout intérêt à être engagé et à développer cet aspect-là, parce qu'il faut tenir compte aussi des réalités africaines. La créativité, c'est génial, et je pense que personne n'a nié le fait que l'Afrique a toujours été une terre d'inspiration. Alors, il y a plusieurs grands couturiers qui se sont inspirés de l'Afrique, pour Yves Saint Laurent, par exemple, mais pour ne citer que lui, il y en a plusieurs autres. Il n'y a pas de débat à dire qu'aujourd'hui, l'Afrique inspire. Il faudrait qu'aussi maintenant, aujourd'hui, l'Afrique puisse compter sur son secteur textile et mode et industrie créative pour se développer. Voilà, si je pouvais essayer de définir la mode africaine, c'est ce que je dirais. Après, comme je dis, c'est complexe et ma définition, c'est pas une vérité générale. C'est juste une opinion.
Écoute, merci beaucoup pour ce bel exposé qui est extrêmement riche et intéressant et qui, finalement, là où je te rejoins, on reste sur cette notion de c'est pas si trivial et si simple à définir que ça. Et que derrière, en fait, on peut y attacher énormément de subtilité et de précision et que finalement, c'est important de toujours compléter son propos quand on a envie de parler mode africaine, parce que selon ce qu'on met derrière, finalement c'est un livre ouvert vers une immensité en fait. Donc je te remercie beaucoup pour avoir pris le temps de partager en fait toutes ces idées qui je pense vont faire réfléchir plus d'un sur la manière dont on parle en fait de savoir-faire, de mode, de made in Africa et d'essayer d'être de plus en plus précis pour pouvoir faire en sorte que demain, quand on parle de mode africaine, qu'on puisse dire effectivement, c'est des couleurs très vives comme dans le wax, mais c'est aussi le lépi, c'est aussi le bogolan, et qu'on puisse à chaque fois pouvoir citer deux ou trois territoires, deux ou trois tissus, et surtout valoriser des tissus finalement qui sont attachés à un territoire, parce que c'est aussi ça qui fait qu'on peut, comment dire, je trouve le côté géographique, le côté d'où vient le tissu, où est-ce qu'il est fabriqué, bah, c'est quelque part quelque chose qui est important à associer à ce type d'expression. Quand on dit mode et qu'on en ajoute un qualificatif qui situe géographiquement, bah, quand on va plus loin, on a envie de se dire, bah, c'est forcément un produit qui est confectionné dans un territoire donné. Donc écoute, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Je trouve ça extrêmement intéressant à quel point, en tant que jeune entrepreneur, parce que c'est ce que tu disais au début, tu as 25 ans, t'as un parcours qui est finalement extrêmement riche et extrêmement intéressant. Et du coup, c'est un beau témoignage pour les personnes qui veulent se lancer dans de l'entrepreneuriat social et qui veulent mettre en place les bonnes étapes pour réussir. Quelles sont les actualités? Quand est-ce que sort la nouvelle collection? Alors, on sait qu'on est en période de Covid, alors c'est difficile de donner des dates précises, mais qu'est-ce que tu peux nous dire avec toutes les approximations qui peuvent exister aujourd'hui?
Comme je te disais, on va effectuer un shooting à Paris. On espère dans les prochaines semaines. Donc, c'est normal, ça va vraiment se faire dans les prochaines semaines, dans les 2-3 prochaines semaines. Et donc, on va avoir la nouvelle collection. Elle a pris beaucoup de retard. Normalement, une collection été-printemps, elle sort beaucoup plus tôt. Mais là, il a fallu qu'on s'adapte. Et puis, comme je suis dans un contexte africain, ça ne change pas grand-chose parce que ici, c'est l'été tout le temps. Pour mes clients qui sont en France ou ailleurs, j'espère qu'ils auront l'opportunité d'acheter cette fois-ci. Et si ce n'est pas pour cette saison, ça sera pour une prochaine saison, je l'espère. En tout cas, la collection va bientôt sortir. Et quand elle sortira, on fera l'annonce. Je ne vais pas donner de date exacte parce qu'on a encore quelques petits aspects à régler. Mais ça devrait plus tarder et ce sera une collection avec de nouvelles matières et j'espère vraiment que ça va plaire et que voilà, qu'il y aura plus de gens qui seront intéressés et voilà, que toutes les appréhensions sur le panier indigo qui déteint, etc., et ben, les gens vont les oublier et que les gens vont acheter, que les gens vont découvrir et voilà, j'espère que je vais être en mesure de partager davantage l'histoire de Cité Indigo, de partager davantage le savoir-faire des artisans, de leur donner plus la parole parce que c'est vraiment eux qui sont derrière mon projet. Et voilà. Voilà, je tenais quand même, Rabata, à te remercier parce qu'on est une petite marque, on vient de commencer et tu as pris le temps de t'intéresser à ce qu'on fait. Et c'est vraiment important pour nous parce que toute plateforme sur laquelle on peut s'exprimer peut nous rapporter beaucoup. Et vraiment, merci. Merci d'avoir pris ton temps pour t'intéresser à Cita. C'est très gentil et j'en suis très reconnaissante, en tout cas.
Bah écoute, moi, je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Pour moi, c'est complètement normal de parler de savoir-faire. Je regarde pas la taille des entreprises et je regarde pas non plus leur notoriété. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est l'histoire de savoir-faire. Donc à partir du moment où c'est lié à une histoire de savoir-faire, moi c'est ma volonté, elle naît vraiment de ce désir de promouvoir des savoir-faire qui sont pas connus. Et moi, quand j'ai découvert ta démarche et quand j'ai découvert ta marque lors de la Dakar Fashion Week l'année dernière, j'ai eu envie assez rapidement de d'en savoir un peu plus. Et puis après, on a pu échanger sur LinkedIn une ou deux fois. Et pour moi, quand j'ai lancé le podcast, ça me paraissait évident de faire parler une Guinéenne et puis de parler du lait de pie. Donc c'est plutôt moi qui te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Donc on va rester connecté sur les réseaux sociaux de Cité Indigo pour avoir la date précise de la sortie de la nouvelle collection. Pour ceux de la diaspora qui devraient acheter les collections à l'automne, mais qui l'achètent, ce sont des produits qui se portent tout à fait pour sortir. Donc il n'y a pas de problématique de météo, faut pas se dire ça. Il y aura des opportunités pour tout le monde de porter du Made in Africa by Cité Indigo. Donc, écoute, je te remercie encore pour ce temps passé. C'était vraiment une histoire agréable à entendre et j'espère qu'il plaira à mon auditoire ici pour le podcast Africa Fashion Tour. Merci beaucoup.
Merci, Ramata. Merci.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Pour contribuer au rayonnement de la créativité africaine au-delà des frontières du continent, parlez-en autour de vous. Faites-moi part de vos commentaires et suggestions d'invités. Donnez votre avis. Je vous dis à très bientôt, en Afrique ou ailleurs.